RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfand.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui au Liban. À l'heure où le régime de Bachar el-Assad réaffirme son autorité sur la majorité du pays, l'heure du retour est-elle venue pour les réfugiés? 5,5 millions de Syriens ont fui le pays depuis 2011. Parmi eux, plus d'un million ont trouvé refuge au Liban. Aujourd'hui, dans ce petit pays, grand comme la Corse, plus d'un habitant sur quatre est syrien. Et la classe politique libanaise le répète, il est temps pour ces réfugiés de rentrer chez eux. Depuis plusieurs mois, le Liban organise des retours sur la base de volontariat. Les opérations sont menées en coopération avec les autorités syriennes. Selon les officiels, depuis le mois de juillet, 90 000 réfugiés du Liban seraient rentrés en Syrie. Mais les obstacles au retour sont nombreux. Les réfugiés syriens du Liban, est-ce l'heure du grand retour? C'est un grand reportage de Nicolas Feldman.
Nous sommes mercredi, il est 6 heures du matin. Beyrouth est encore très calme, hein. Il n'y a pas l'agitation que connaît la ville en journée. Et on est dans le quartier de Burj Hamoud, c'est le quartier arménien de Beyrouth. Et c'est là, devant le stade de foot du quartier, qu'ont rendez-vous ce matin des Syriens qui vont rentrer chez eux pour la première fois parfois depuis plusieurs années. Alors il y a déjà plus d'une centaine de personnes, hein. On voit là des sacs au bord de la route, des valises, des couvertures. C'est en fait tout ce qu'il reste pour ces Syriens de toutes ces années, de tous ces mois d'affaires accumulées au Liban.
Je suis de la banlieue de Damas, de la ville de Harasta. Je suis partie au début de l'année 2012 à cause de la guerre. La situation était terrible là-bas à l'époque. C'était des missiles, des roquettes, des échanges de tirs. La ville était assiégée, mais on a réussi à s'enfuir. Au Liban, j'ai d'abord habité à Beyrouth, dans le quartier de Dekouéné. Mais je suis partie plus à l'est, dans la région de la Beka, parce que les maisons sont beaucoup moins chères là-bas. Le HCR nous a coupé l'aide, ça fait un an. Avant, on avait de l'aide pour la nourriture et pour le mazout, $196. Mais bien sûr, ça ne suffisait pas. Il nous fallait $100 pour vivre 3 jours. J'ai 4 filles et un garçon. C'est mon mari qui veut qu'on rentre. Ça fait 4 mois qu'il n'a plus de travail. Il n'a pas rapporté un centime. On repart ensemble. Nous sommes une famille. Là-bas, en Syrie, ma maison a été détruite. Je l'ai vu sur une photo qu'on m'a envoyée. Harasta, ça fait peur. Tout est détruit, toutes les maisons. Mais des gens vivent encore là-bas. Moi, maintenant, je veux rentrer, louer une maison à Damas ou dans la banlieue. Là-bas, on peut peut-être trouver quelque chose d'acceptable. Mais retrouver ma maison, non, c'est pas possible.
Toutes les familles se présentent ici. Ceux qui veulent partir, vous allez pouvoir partir. Venez là, un par un. Formez une queue, s'il vous plaît.
Là, on les fait rentrer. On regarde qui est venu, qui n'est pas venu. Ensuite, ils s'asseyent ici et ils attendent le bus. Des opérations comme celle-ci, on en fait toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parfois, vous avez 100 personnes, d'autres fois 150, voire 170. Ça dépend combien ont été acceptés. On a une liste avec les Syriens candidats pour un retour. On l'envoie aux autorités. Et l'État libanais se met d'accord avec les autorités syriennes. Voilà, nous avons 310 personnes qui vont venir. Ensuite, on leur dit que 210 personnes se sont présentées aujourd'hui. Les bus viennent de Syrie. Ils partent d'ici pour aller à la frontière à Masna, et ensuite ils rejoignent Damas. Après ça, moi je n'en sais pas plus. Les Syriens peuvent choisir de rentrer de même. Mais s'ils ont n'importe quel problème avec l'armée ou autre, on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Au moins d'ici à Damas, avec les autorités libanaises, c'est sûr.
My name is Vanessa Moya and I'm the protection officer for UNHCR. UNHCR is not a...
Je m'appelle Vanessa Moya, je suis officier de protection pour le HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Le HCR n'organise pas, ni même ne facilite ces retours. Ils sont organisés par la Sûreté Générale libanaise. Ils ont des centres partout dans le pays et les réfugiés peuvent y aller et s'enregistrer s'ils veulent rentrer. Nous, nous sommes là pour observer les opérations, pour parler avec ces réfugiés. On essaie de les aider pour récupérer des documents dont ils ont besoin au Liban avant de partir. Ça peut être un acte de naissance, par exemple, ou un certificat scolaire pour pouvoir continuer leurs études en Syrie. On leur demande aussi... Où est-ce qu'ils comptent aller en Syrie? Pourquoi ils ont choisi de rentrer? Dans la mesure du possible, nos équipes essaient d'avoir accès aux personnes qui rentrent. Parfois, c'est possible, mais ce n'est pas systématique, car nous n'avons pas accès à toutes les régions en Syrie.
Là, ça fait maintenant à peu près 2h30 que les Syriens s'enregistrent auprès des autorités libanaises qui vérifient qu'ils sont tous bien sur les listes et donc qu'ils peuvent partir en Syrie. Et il y a les bus qui viennent d'arriver. Donc c'est 6 grands bus et c'est des bus verts et c'est les mêmes qu'on voyait lors des évacuations des zones qui s'apprêtaient à être reprises par le régime syrien en Syrie. Et donc c'est à bord de ces bus que les Syriens vont monter et rentrer en Syrie. Là, il y a un jeune homme qui est avec ses deux frères et ils sont tous les trois très élégants. Lui porte une veste en cuir, ses deux petits frères ont une veste de costume. On sent qu'ils sont très heureux aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un jour important, un jour historique. J'ai 16 ans, ça fait 8 ans que je suis au Liban et je veux rentrer. Moi, je viens de Deraa. Deraa, je vous jure, ça me renvoie à mon enfance. Deraa, ça symbolise tant de choses pour moi. La municipalité a repris la ville, l'électricité est revenue, la frontière avec la Jordanie est de nouveau ouverte. Je veux rentrer, reprendre ma maison, revoir les gens. Ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Notre magasin est fermé depuis 2012. C'est un magasin de plomberie et de peinture. Je veux rentrer et le rouvrir. Si Dieu le veut, aujourd'hui, on va pouvoir retrouver tout ça. Tout le monde doit pouvoir rentrer dans son pays. Et puis, il n'y a pas plus beau que la Syrie.
Le garçon avec qui on parlait tout à l'heure, il est maintenant avec sa famille et on les voit, là il y a beaucoup d'émotions, la maman est en pleurs. C'est apparemment parce que l'un des fils ne va pas pouvoir monter dans ce bus.
Je ne peux pas monter parce que j'ai mon service militaire là-bas. J'ai 23 ans. Si Dieu le veut, notre président va faire un décret pour exempter ceux qui doivent faire leur service militaire. Ça fait 5 ans que je suis là. Je peux payer des frais pour régulariser ma situation. C'est 8 000 $. Je dois régler des papiers et en attendant, je vais rester ici, réunir l'argent et payer. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps.
Ce jour-là, les bus mettront près de 7 heures pour faire les 115 km qui séparent Beyrouth de Damas. Une fois de l'autre côté de la frontière, très peu sont ceux qui souhaitent rester en contact. Seule une jeune fille de la famille de Arasta, rencontrée à Beyrouth, accepte de répondre par téléphone. Elle est rentrée en Syrie à la fin du mois d'octobre.
Le voyage était très dur. À partir du moment où on est arrivé à la frontière, ça nous a pris beaucoup de temps ensuite pour arriver à Damas. Les contrôles étaient assez longs. On était beaucoup, mais tout s'est bien passé. Ils ont été très gentils avec nous. Là, nous sommes arrivés à Damas, mais on ne peut pas louer de maison. C'est beaucoup trop cher. Donc là, on habite à Mohadamieh. On est tous dans la maison de mon oncle. J'aimerais bien revenir au Liban. J'ai passé du bon temps là-bas. Mais ici, c'est mon pays. La vie est revenue à la normale. Certaines choses sont difficiles, la vie est chère, l'électricité coupe beaucoup et l'eau ne vient pas tout le temps. Mais au moins ici, je peux faire mes études. J'ai 20 ans, donc je vais pouvoir passer mon baccalauréat.
Depuis le mois de juillet, les officiels libanais parlent de 90 000 retours organisés. Des chiffres gonflés répondent des cercles proches de l'opposition syrienne. Certains rapportent même des exactions commises contre des personnes une fois rentrées en Syrie. Des informations difficiles à vérifier par manque de preuves. Mais dans un Liban qui accueille plus d'un million de réfugiés syriens, ce dossier des retours est l'une des priorités de la classe politique. Le président libanais, Michel Aoun, le 21 novembre, veille de la fête nationale. معضلة أخرى تواجهنا فرضتها علينا حرب الجوار وتضغط علينا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
Nous subissons un fardeau économique, social et sécuritaire important, occasionné par la situation des déplacés syriens. Nous notons que certains continuent d'entraver ce retour en utilisant tous les moyens d'encouragement et d'intimidation pour pousser les déplacés à rester là où ils se trouvent. Ils lient leur retour à une solution politique et exigeant qu'ils soient volontaires. Nous œuvrons continuellement à encourager les déplacés syriens à rentrer et à faciliter leur retour.
« Je m'appelle Nasser Yassine, je suis directeur de recherche à l'Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les relations internationales. Je suis aussi professeur à l'Université américaine de Beyrouth. Je ne dis pas que les réfugiés ne pèsent pas sur l'économie locale, sur les infrastructures ou sur le système de protection sociale du Liban. Parce que là, on parle d'un million. Aujourd'hui, c'est 20 à 25% de la population libanaise. Et c'est intenable pour n'importe quel pays au monde. Mais ce qui manque dans le débat, et particulièrement en politique, c'est la contribution de ces réfugiés. Ces réfugiés sont des consommateurs. Bien évidemment, ces personnes doivent rentrer chez elles, mais ça doit être une décision volontaire. Elles doivent pouvoir dire « aujourd'hui, c'est sûr pour moi de rentrer en Syrie ». 70% du pays est aujourd'hui sous contrôle du régime, mais ça ne veut pas dire que les conditions pour un retour sont favorables, parce que ça implique le fait de pouvoir récupérer sa propriété, de pouvoir rentrer dans sa maison, son village ou sa ville d'origine. Il doit pouvoir se dire que son quotidien peut être normal en Syrie, aussi bien en termes de sécurité que pour subvenir à ses besoins, et je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le cas.
Abdé, ce n'était pas une matinée comme les autres. L'événement du jour, c'est ce naufrage. La marine libanaise a secouru en mer ce matin 38 personnes, dont une majorité de réfugiés syriens. Leur bateau s'est renversé au large de la région du Hakkar, alors qu'ils essayaient de quitter le Liban illégalement. Un enfant de 5 ans a perdu la vie. Ces réfugiés voulaient rejoindre l'île de Chypre, depuis laquelle ils devaient ensuite regagner la Turquie pour prendre la route vers l'Europe.
La famille du petit Khaled, mort le 21 septembre, habite le camp palestinien de Bet Dawi, au nord du Liban. Le père reçoit dans le salon de l'appartement. La tante, elle, tient à montrer les photos du garçon sur son téléphone.
Regardez, ça c'est lui. Regardez comme ils nous ont rendu son corps. Ça, ce sont les photos. C'est comme ça qu'ils nous l'ont rendu. Il portait encore sa couche, ses chaussures. Quand on a voulu enterrer mon neveu, ils nous ont dit « Toutes les tombes, les cimetières, c'est interdit pour les Syriens ». On a dû appeler quelqu'un du camp palestinien. Il nous a donné son accord pour qu'on vienne l'enterrer. Les Palestiniens ont plus de compassion pour nous que les Libanais. Ils ont ouvert une tombe et ils l'ont enterré. Regardez, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ce n'est qu'un enfant. On n'est pas venu ici parce qu'on le voulait. On est venu ici à cause de la guerre. On a fui la mort et ici on trouve de l'humiliation. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer en Syrie. Par exemple, lui, mon autre neveu, il a dû rentrer en Syrie. On n'a pas eu de nouvelles pendant 4 mois.
Ce qu'il s'est passé, c'est que les autorités libanaises m'ont donné 24 heures pour quitter le pays, pour aller renouveler mes papiers. Dès que je suis rentré en Syrie, ils m'ont arrêté. Ils ont dit « Tu es recherché par l'armée pour ton service militaire obligatoire ». Là-bas, sans rien me demander, un officier a rédigé un papier et m'a dit de le signer. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû le signer. Le document disait que je m'étais engagé avec les terroristes. J'ai passé 4 mois et demi en prison parce qu'ils ont dit que j'étais terroriste. Je me suis retrouvé dans la prison de la branche palestine. Jour et nuit, sans lumière, sans nourriture. À chaque changement de gardien, c'était des coups, et encore plus de coups. Il y a eu la torture, l'électricité. Ensuite, j'ai été envoyé à l'armée, où j'ai été blessé 3 fois. Ma famille est au Liban, je suis donc rentré pour être avec eux. Et aujourd'hui, je suis condamné à mort en Syrie.
Les gens, après la mort de Khaled, sont venus me voir et me demander comment on a pu prendre un tel risque et tenter de traverser. Mais si j'étais heureux ici avec ma famille, bien sûr, on ne serait jamais parti. Bien sûr que je n'aurais pas risqué de prendre la mer. Aujourd'hui, nous, on fuit quelque chose qui s'appelle l'humiliation, la discrimination. Si je vais essayer de partir à nouveau ? Bien sûr que oui. Si j'ai de l'argent, je repars. Au moins, tu sais que si tu meurs en mer, c'est parce que Dieu l'a voulu, pas les gens d'ici. Ici, on est humiliés, méprisés.
Si les départs en bateau depuis le Liban se sont intensifiés l'été dernier, ils restent cependant très limités. À Chypre, le HCR recense en 2018 766 personnes arrivées illégalement par la mer. C'est moins que l'année d'avant, mais depuis cet été, et c'est nouveau, les bateaux arrivent en majorité non plus de Turquie, mais par l'est de Chypre, c'est-à-dire en face des côtes syriennes et libanaises. Là, on est vraiment à l'extrême nord du Liban. C'est de l'une de ces plages que partent les bateaux. Ils partent la nuit. Et la plage est recouverte de déchets. Ça ressemble plus à un terrain vague en fait qu'à une plage, hein, parce que c'est vraiment des déchets partout. Et au loin, à 500 mètres, peut-être, c'est le, il y a un bâtiment qui se détache et c'est la frontière syrienne. Ce bâtiment, il est situé côté syrien.
Je suis Ali Mahmoud Ali. Je suis le maire du village de Cherzined. Là, nous sommes à la frontière libano-syrienne. Ici, vous avez des Syriens et des Libanais. Le nombre de Syriens, c'est toujours le même. Ils travaillent ici dans l'agriculture, dans le commerce, dans les magasins de vêtements, les restaurants. Bien sûr que tout a changé depuis quelques années. Avant, les citoyens libanais vivaient dans le confort, la sécurité. Ils étaient heureux. Maintenant, les Libanais n'ont plus rien. Les Syriens ont pris tout le travail. Non, il n'y a pas de racisme, mais eux veulent vivre. Et nous aussi, on aimerait vivre normalement. Dans cette ville, en face de nous, les Nations Unies aidaient beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ils n'aident plus. Les Syriens préféreraient rentrer chez eux. La Sûreté Générale Libanaise leur a dit qu'ils pouvaient s'enregistrer pour rentrer, mais très peu le font, car il n'y a pas de sécurité dans leur pays. Ils veulent une vie normale, manger, boire. Et comme personne ne les aide, certains préfèrent partir à l'étranger.
Et depuis le mois de juillet, un autre acteur s'active sur ce dossier des retours. Il s'agit de la Russie. Moscou, allié de Damas, annonçait cet été un plan pour permettre aux Syriens réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie de rentrer chez eux. Mais 6 mois après cette annonce, l'initiative est toujours au point mort.
Bonjour.
Amal Abou Zeid est le conseiller du ministre libanais des Affaires étrangères pour les questions russes. Il est aussi l'un des 4 Libanais à la tête du comité en charge du suivi de ce plan.
L'initiative russe est très simple. Ils ont annoncé qu'ils voulaient le retour des Syriens depuis la Turquie, la Jordanie et le Liban. Les Russes ont un centre spécial sur la côte syrienne. Il est responsable d'étudier la situation sur le terrain pour voir s'il y a des possibilités ou non de retour. Pour ceux qui n'ont nulle part où aller, les Russes disent « on est prêt à vous trouver des lieux provisoires, des camps que nous allons pouvoir installer ». Mais pour cela, il faut des fonds. Et à l'heure où l'on parle, la Russie n'est pas prête à financer ces retours car elle dit qu'il faut l'assistance des Nations Unies. La guerre en Syrie était une guerre internationale. Tout le monde a été impliqué. Donc le minimum, quand on parlera de reconstruction ou de retour, c'est que tout le monde doive s'impliquer pour permettre à ces gens de rentrer. Everybody has to be interfering in order to help the people coming back to their
home. Diana Seman,
je suis Diana Seman. Je suis chercheuse sur la Syrie pour l'ONG Amnesty International. On remarque depuis quelques temps que les Russes s'impliquent de plus en plus dans les retours de ces réfugiés syriens. Ils encouragent les gouvernements syriens et libanais, et même les Européens, à faciliter ces retours. Things are becoming more and more normal inside of Syria. La principale raison derrière cela, c'est qu'ils veulent montrer que les choses rentrent à la normale en Syrie. Et ainsi, ils peuvent réclamer des fonds pour la reconstruction du pays. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le gouvernement syrien ne montre pas de signes évidents pour le retour de tous ces réfugiés. Même si, c'est vrai, ils sont en train d'essayer de faciliter la procédure, ce qui, peut-être, est le résultat des pressions russes. Il va vraiment falloir attendre de voir le moment où un nombre important de Syriens va se mettre à rentrer. C'est là qu'on verra si le gouvernement syrien permettra les retours ou les bloquera. Jusqu'ici, les nombres sont vraiment faibles. C'est donc difficile pour nous de connaître les intentions réelles du gouvernement syrien et des Russes.
Les réfugiés syriens du Liban, est-ce l'heure du grand retour ? Un grand reportage de Nicolas Feldman, réalisation Pierre Chaffangeon.